des pirates, ce sera moi!
À mon tour de m'amuser avec toi!
Ça, game on Hajimeo.
Extension du territoire.
Fusion!
Stop le jeu!
Anime AVA!
Bonjour à tous et bienvenue dans
Animeamea,
le podcast Allociné consacré à l'animation et notamment à l'animation japonaise. Encore que cette fois-ci, il s'agit effectivement d'un animé japonais bien qu'adapté d'un webtoon, ces bandes dessinées sud-coréennes qui connaissent un engouement de plus en plus important, notamment en France. Et pour parler du phénomène Solo Leveling, la nouvelle série Crunchyroll qui figurait parmi les plus grosses attentes de 2024, les experts d'Animeamea, Vincent et Manon.
Salut.
Salut.
Solo Leveling, je me tourne immédiatement vers Manon parce que c'est toi, je pense, qui a été la première à nous dire cet animé-là, ne le manquez sous aucun prétexte. Qu'est-ce que c'est Solo Leveling? Est-ce que tu peux nous en parler?
C'est surtout que moi, à la base, je connais même pas l'œuvre originale parce que oui, c'est adapté du webtoon, mais c'est un light novel à la base.
D'accord.
C'est même carrément un light novel, donc c'est un, pour resituer, c'est un roman graphique en fait, mais c'est principalement du roman et pas du dessin, qui a été plus tard dérivé en webtoon, et c'est là vraiment, je pense que le succès s'est fait auprès du public, en tout cas d'un public plus large. Et des millions de gens avant moi s'étaient rendu compte du potentiel. Et c'est justement en entendant parler que je me suis dit, mais en fait, il faut que moi aussi je me fasse mon idée. Et pour la petite anecdote, j'avais tellement peur de pas aimer que je les ai achetés en occasion. Voilà, j'ai acheté les 3 premiers tomes en occasion. Et parmi ces occasions, je les ai achetés en particulier. Il y avait une jaquette alternative, somme toute très, très jolie, mais dont je me fichais un peu. Et un jour, sur un groupe de vente, un mec m'a dit, je cherche cette jaquette. Je dis, bah, ok, vas-y. Je peux te l'envoyer, ouais, je t'enfile 60 euros. Et là, c'est devenu mon webtoon préféré.
Non, mais, ça rapporte.
Ça rapporte. Mieux. Non, mais vraiment, pour le coup, Solo Leveling, c'est une œuvre où je ne m'attendais pas du tout à aimer, parce que c'est de l'héroïque fantasy, en fait, en gros.
Je dirais plutôt du RPG.
Oui, moi. C'est du RPG, ouais. Mais je veux dire, avec un univers vraiment typique héroïque fantasy, avec des gobelins, des dragons, des gros monstres, en fait, de ce type-là. Et moi, c'est pas tant mon délire que ça. Mais je trouve l'idée très originale parce que, pour faire un pitch, on est dans un Japon un peu alternatif de notre époque, hein, où des portails se sont ouverts comme par magie un peu partout dans le monde, et de ces portails sortent des créatures pas hyper cool. Donc voilà, et en même temps que ces portails sont apparus, certaines personnes ont vu s'éveiller en elle une certaine puissance qu'on classe du rang E au rang S, voilà, du plus faible au plus fort. Et ces personnes qui sont capables, qui ont un de ces rangs, sont appelées des chasseurs et du coup vont pouvoir rentrer dans les portails pour aller défoncer les gros méchants et par la même occasion récupérer des cristaux, des choses comme ça qui peuvent se revendre dans le monde réel. Et ils veulent même en faire une nouvelle source d'énergie. Donc t'as plein de petits trucs comme ça. Et on va suivre Sung Ji-woo, j'espère que je le prononce bien, qui est un chasseur de rang E et qui est considéré comme le plus faible de tous les temps.
Ça commence déjà par...
Exactement, c'est le plus
faible des héros.
C'est ça. Après, on est sur un schéma un peu classique shonen. Hein. C'est vraiment, comme tu dis, le plus faible des héros qui, malheureusement, dans son cas, ne peut pas évoluer. Parce qu'une fois qu'un rang est défini, on ne peut pas le changer. Et donc, il a cette étiquette de chasseur le plus faible. Et bah, il va devoir vivre avec, sauf que voilà, ça va pas tout à fait se passer comme ça, et je sais pas dans quelle mesure on peut en dire plus, mais...
On va essayer de spoiler le minimum, mais on se doute bien qu'il va pas rester le plus faible de tous les héros.
Non, enfin, alors que ça devrait être le cas, mais il va se passer une certaine chose. Enfin, de toute façon, regardez les 2 premiers épisodes, ça va vous donner le ton.
C'est une intro, en fait.
C'est vraiment une intro, et je pense que Vincent pourra le dire, parce qu'il a mis du temps à se lancer, tellement il avait des a priori. Les 2 premiers épisodes sont quand même assez marquants.
J'avais les mêmes a priori que toi sur le côté RPG, le côté heroic fantasy en animé. Il y a un petit côté isekai aussi, parce qu'il se retrouve dans des dimensions un peu parallèles. C'est pas des trucs qui m'attirent des masses. Et j'ai vachement hésité avant de me lancer, mais comme on faisait une émission dessus, je m'y suis mis. Là, j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Et j'avoue qu'au début, quand on voit les premières scènes avec des fourmis géantes et des chasseurs, des épées, des membres... des membres éclatés, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Bon, j'étais pas hyper emballé. Et c'est vrai qu'après, avec le 2e épisode où ils vont dans un donjon pour combattre un boss, il y a un petit côté jeu vidéo, RPG, comme tu dis, qui m'a plu un peu plus, où j'ai trouvé un peu plus profond, un peu plus intéressant. Et surtout, ça prend, je trouve, toute sa dimension à partir du moment où ils se retrouvent dans une pièce enfermée avec des statues et ils vont devoir résoudre une énigme pour survivre. Et là, il y a un petit côté aussi Alice in Borderland, où à un moment, le héros Sung se dit, il va falloir justement réfléchir un peu et pas bourriner, parce qu'il faisait que ça jusque-là dans le premier, puis dans la moitié de l'épisode 2, il bourrine parce qu'il faut tuer les monstres et prendre des richesses pour les ramener et se faire de la thune. Là, ils se rendent compte qu'il faut un peu réfléchir. Et finalement, les plus forts, c'est pas eux qui vont gagner dans ce cas-là. Mmh. Et Sung un peu tire son épingle du jeu en réfléchissant un peu et en essayant de trouver comment se sauver de cette pièce qui est fermée avec des statues géantes, dont une qui a ce sourire hyper glauque et qui a marqué
tous les lecteurs. C'est un panel qui a traumatisé tellement de gens et qu'on attendait énormément. Et je la trouve pas réussi, c'est pas le terme, mais elle est tellement plus flippante dans le webtoon. Le plan est terrifiant.
Je sais que ça donne vachement à la fois envie de lire le webtoon, donc on en parlait avant l'émission. Manon me disait qu'il n'est pas encore en fin de publication en France.
Il va se terminer cette année, je pense.
Voilà, en Corée du Sud, c'est fini. Il me semble qu'il y a eu une suite ou un spin-off qui a vu le jour, mais
c'est possible.
Je sais qu'aussi, la série avait fait l'actualité parce que son auteur est décédé peu après la fin de publication, ce qui avait relancé le débat sur les conditions de travail des dessinateurs. Donc, on connaissait le cas japonais des mangas, mais apparemment, les webtoons, c'est pas forcément la même chose. Mais c'est vrai que ce que j'ai vraiment surkiffé, moi, dans Solo Leveling, c'est ce côté jeu vidéo dans la vraie vie, en fait. Et ça reprend vraiment, moi, ce que je préfère dans les jeux vidéo, c'est le côté farming du personnage. Et vraiment, au départ, il est la loose intégrale parce que, au-delà du fait qu'il a il a vraiment aucune puissance, enfin, on se demande même comment il est rang E, parce qu'il il est vraiment normal.
Oui, et ça, on l'a pas je te coupe deux secondes, c'est juste pour préciser que les rangs sont définis parce que ce que tout joueur de jeux vidéo connaît, c'est le mana. Et le mana, en soi, on caractérise ça dans notre tête par de la puissance physique, mais c'est pas que ça. Voilà, parce qu'il y a des catégories de chasseurs, notamment les guérisseurs, qui ont du mana, mais en termes de magie, qui peuvent du coup guérir les autres. C'est pas nécessairement de la puissance physique, même si on l'associe beaucoup à ça. Et en l'occurrence, lui, il est vraiment au bas de l'échelle sur toutes les capacités qu'on a dans un héros de jeu vidéo.
Vraiment, c'est le niveau 1, quoi.
C'est ça.
il en est pas à sa première mission, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a tout de suite un enjeu presque économique, financier, social. Parce qu'en fait, on se rend compte que les héros de rang E, pour subvenir en fait à leur mission, en fait, il y a ce cercle vicieux de je peux pas m'acheter des équipements très chers, donc j'ai une épée toute pourrie qui coupe à peine. Et en même temps, si j'ai pas des bons équipements, je peux pas tuer des ennemis. Enfin, vraiment, on voit tout de suite. Et je trouve que le premier épisode crée vraiment un univers où on voit qu'il y a comme des institutions un petit peu dans l'ombre qui se font du fric. Enfin, je trouve que c'est hyper ambitieux. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit de l'action un peu plus classique shonen, effectivement, d'un héros qui allait power up et ensuite qui allait tout défoncer. Et là, en fait, il y a ce côté beaucoup plus graduel. Vraiment, en fait, comme tu disais, Alice in Borderland, enfin, vraiment, je me suis dit, là, les plateformes qui veulent un live action, cette série, elle est juste parfaite pour, quoi. Enfin, il y a tous les éléments qui font...
Alors, attention, c'est très ambitieux de faire de lancer, pour avoir lu la suite, c'est très ambitieux.
Je te rappelle qu'ils ont fait One Piece en live action, donc à partir de là, tout est possible.
C'est vrai, mais c'est pour avoir vu les décors qui vont arriver plus tard, puisque les donjons, on les rappelle, c'est quand même des univers, c'est des pseudo-univers parallèles. Là, dans l'épisode 4, ça a lieu dans une bouche de métro, c'est très facile à représenter en termes de live action. Ça va être des univers beaucoup plus complexes à représenter par la suite, mais j'ai hâte de voir. Mais moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'en ayant lu le webtoon, on parle quand même d'un mec à la base qui n'est pas censé évoluer comme tous les autres héros de shonen. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve que Sung Ji-woo, c'est quand même le personnage, toute fiction confondue que j'ai vue en termes d'animation japonaise, a le plus changé entre le premier épisode, la fin du dernier tome que j'ai lu. C'est tellement flagrant que quand j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit, mais qui est ce mec? Je ne te connais pas. Et c'est même pas juste un changement physique, c'est un changement de mentalité. Avec tout ce que tu dis, les organisations qui travaillent dans l'ombre, les guildes qui vont se faire la guerre, parce qu'évidemment, il y a des guildes qui se forment avec pour objectif de recruter les meilleurs chasseurs. Donc, ça se tire dans les pattes et il y a aussi des pseudo-compétitions avec les chasseurs des autres pays.
Ah oui.
Et voilà, et des cas où plusieurs guildes internationales vont devoir s'allier. Il y a quand même ce besoin de prouver qu'on est les meilleurs. Et ce mec-là, sorti de nulle part, qui est tout fragile dans le premier épisode, il va vraiment être ce gars qui dit, mais en fait, moi, je suis là pour faire mon taf et j'ai pas votre temps. Voilà. Et c'est dingue de se dire qu'on va en arriver là, alors qu'on a vu le tout petit fragile et mignon que c'est en début de saison.
Sans spoiler, nous, avec Vincent, on n'a vraiment pas lu le webtoon. Enfin, moi, j'ai vu les 4 épisodes, toi, je crois.
J'ai vu les deux premiers.
Les deux premiers. Est-ce qu'il y aura des ellipses ou des. Non ? C'est tout continu.
C'est tout continu. Il n'y a pas d'ellipse. Alors, peut-être de 3 jours. Quoi,
oui,
mais...
voilà.
Mais
oui,
voilà. Voilà, il n'y a pas d'ellipse
en termes. 3 ans plus tard.
Non, il n'y a pas d'ellipse en termes d'année. Et de toute façon, je pense que vous l'avez vu dans l'opening, il va y avoir de gros changements au niveau du héros. On a limite l'impression que c'est deux personnes différentes.
C'est vrai que faut pas s'attacher au personnage, j'ai l'impression.
Ne vous attachez pas au petit mignon tout fragile du début parce qu'il va pas rester longtemps.
Et même au début, il y a des personnages que je commençais à bien aimer. Il y en a un qui, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un des personnages qui a une fille et qui dit moi, ma fille, je viens d'avoir un nouvel enfant, il faut que je subvienne à ses besoins.
Et trois secondes après,
il se fait tuer.
Ah ouais.
Ah non, il avait l'air cool ce personnage.
Tué, mais sale, moi, ça m'a beaucoup rappelé Gantz. À chaque mission, ils sont transportés dans un monde. Mais qui des fois est un peu, qui est le nôtre, des fois non, enfin c'est un peu compliqué. Pareil, ils affrontent des fois des espèces de statues de Bouddha et tout. Au départ, tu te dis, bah je vois pas trop la menace, puis d'un coup, le Bouddha fait un air très effrayant et commence à écraser des gens, à démembrer les gens. Tu fais, ah ouais, d'accord, c'est hyper bourrin. Et c'est vrai que, autant, bah, on peut pas dire que la violence ne fait pas partie des codes de l'animé, mais je trouve que celle-ci met tout de suite, à la fois en termes de ce qui est montré graphiquement, mais. C'est des mises à mort, mais très cruelles. Et en fait, je trouve que les personnages, des fois, c'est vraiment des morceaux de viande. Quoi. C'est très...
Nous, on avait très peur de ça. Enfin, je parle au nom des fans, je pense, du webtoon. On avait très peur de la censure. Parce qu'on s'est dit, ça va pas être possible de... En tout cas, cette scène qui avait... Moi, c'est cette scène-là qui m'a donné envie de lire la suite. C'est vraiment le trauma de tout lecteur de commencer une fiction comme ça où on te présente des personnages, tu commences à te dire « Ah, je vais bien l'aimer. » Bah non, tu vas pas avoir le temps, en fait, de l'aimer plus que tu ne l'aimes déjà. Et dans le webtoon, c'était assez graphique, on avait peur de ça, que ce soit hyper censuré, que tout soit montré hors champ. Et pas du tout. Pas du tout. Bonjour les traumatismes des animés, on le lit, mais vous n'avez pas fini. Voilà.
D'ailleurs, ce qui m'a étonné, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'ils ont gardé les noms coréens.
Oui.
Tu nous disais que...
Oui, à la base, c'était en discussion. Je crois même que ça avait été plus ou moins acté. Alors, je ne sais pas si c'est la parole des fans qui a aidé à prendre la décision inverse. Mais oui, à la base, comme c'est une production japonaise, à la base, il était question de transposer l'histoire au Japon. Et de japoniser les noms. Mais la question se posait aussi, c'est que peut-être que ceux qui avaient pris cette décision n'avaient pas lu l'entièreté du webtoon, et à un moment donné, le Japon rentre en lice dans l'histoire originale. Oui. Donc, comment ça va se passer ? Est-ce que du coup, les Japonais du webtoon vont devenir les Coréens de l'animé ? Voilà, il y avait toutes ces questions qui se posaient. Alors, peut-être que notre voix n'a pas du tout compté, et qu'au final, c'était un parti pris artistique de finalement rentrer dans les codes du webtoon pour pas avoir ce problème plus tard. Mais voilà, il n'y avait pas besoin de changer. L'histoire se déroule au Japon. Il y a une raison en Corée. Il y a une raison. C'est les codes coréens, c'est leur politique, c'est leur façon de fonctionner. Il aurait fallu changer tellement de choses si ça avait été transposé au modèle japonais. Ça n'aurait pas changé le fond de l'histoire, mais.
Puis, voilà. Je trouve que ça n'aurait pas été justifié parce que.
C'est ça.
Regarde, nous, on regarde énormément de séries maintenant avec des noms japonais qui se passent au Japon, une tranche de vie. Typiquement japonaise, mais finalement auquel on s'identifie. Peut-être qu'effectivement, le public japonais est moins habitué finalement à faire dans le sens inverse. Finalement, c'est un juste retour. Effectivement, à partir du moment où, au-delà de traduire, t'impactes la cohérence de l'œuvre, il faut pas le faire, quoi. Là, il aurait presque fallu réécrire l'histoire. Et on parlait des mises à mort des personnages et le fait qu'effectivement, il joue beaucoup sur le côté, n'importe quel personnage peut mourir. Est-ce que du coup, toi qui as lu quasiment tout le webtoon, ça risque pas un moment de justement, on a du mal à s'attacher au personnage? Après, ils arrivent quand même à installer des personnages un peu plus...
Non, ils arrivent... Non, il y a plein de personnages... D'ailleurs, moi, je les ai aperçus là, dans les premiers épisodes où je me dis... C'est marrant parce que les animés only vont pas du tout se dire que ce personnage il est important parce qu'on le croise 3 secondes en fond de... Voilà, en background. Mais non, vous pouvez vous attacher, il n'y a pas de souci. Après, forcément, il y a toujours un risque. Hein. On parle de gens qui vont tuer des fourmis géantes parce que les fourmis, on les reverra. Tiens, petit teasing. Les fourmis, on les reverra et on verra tellement d'autres monstres que tu te dis à un moment donné, il va falloir que certaines personnes y passent. Et c'est normal comme dans toute œuvre. Mais non, vous pouvez vous permettre d'aimer des gens. De toute façon, ils vont se mettre plus ou moins en lumière au fur et à mesure. Notamment, là, on l'a vu, le directeur d'entreprise dont j'ai malheureusement oublié le nom, Monsieur Barbu, cheveux grisonnants là. son secrétaire aussi, le petit blond qu'on a revu à plusieurs reprises et qu'on va revoir encore. Tout ça, c'est des personnages qui vont bien s'ancrer. Maintenant, est-ce qu'ils vont survivre? Je dirais rien. Mais non, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous attacher. Maintenant, faites les bons choix.
Le côté, ce qui est un peu... Au début, ça m'avait un peu aussi... J'étais un peu circonspect quand j'ai vu, ah ouais, encore des trucs avec rang S, rang E, rang A. Ça me pensait à One Punch Man. Un mix entre One Punch Man et Meilleur Académien.
Et Jujutsu Kaisen.
Jujutsu Kaisen, j'ai fait, ouais, c'est un peu chiant. Puis finalement, finalement, quand ils nous présentent les codes du RPG, finalement, ça rend la chose totalement cohérente. Et on finit par accepter cet univers et avoir envie.
On aurait pu avoir deux épisodes d'introduction plus portés sur le héros et l'action. Mais là, en fait, je sais que si c'était ça, je pourrais me dire, est-ce que je vais pas me lasser au bout de quelques épisodes? Et là, en fait, je sais que... Et en plus, quand Manon nous explique un peu les enjeux qui vont venir, là, vraiment, je veux dire, j'ai vraiment envie de voir ça. Et vraiment, je trouve que le côté monde réel auquel nous, on peut s'identifier avec un côté RPG, enfin, franchement, moi, je trouve que c'est hyper, hyper intéressant. En fait, on peut citer tellement de références, parce que moi, ça m'a aussi un peu rappelé Ready Player One, le côté où la fiction et le réel se mélangent. Enfin, on sent à la fois qu'il y a énormément d'influence et en même temps, ça ressemble pas à des choses de manière à ce qu'on dit, ah, c'est pompé de ça. Je trouve que ça a sa propre identité.
J'allais dire que j'avais beaucoup aimé le caractère design. Parfois, on se mélange un peu les pinceaux sur différents personnages parce qu'ils sont souvent dessinés un peu de la même façon. Là, vraiment, chaque personnage, on sait qui c'est. Il y a beaucoup de personnages qui arrivent, notamment quand ils se combattent dans la grotte, et on n'a pas de mal à suivre qui fait quoi. Donc, ça, c'est un très bon tour.
De toute façon, honnêtement, dans la grotte, vous n'avez pas besoin de retenir beaucoup de chara-design vu qu'il n'y en a pas beaucoup qui ressortent.
Ouais, c'est ça.
C'est surtout des flaques de sang.
C'est ça, c'est surtout la couleur rouge qu'il faut retenir.
Ouais, c'est dommage.
Non, mais je revenais sur tu disais les enjeux aussi, c'est qu'on parlait des rangs E jusqu'au rang S. Mais donc, déjà, ça instaure une certaine compétitivité entre les personnages. C'est assez. Enfin, c'est une vraie discrimination, en fait. C'est même pas une compétitivité. Mmh. C'est vraiment, je te regarde de quel rang tu es. Je suis de rang D. Ah bah, moi, je suis de rang C. Je suis meilleur que toi.
Ouais.
Oui, enfin, non, tu es un rang au-dessus. Et quand bien même, tu ne sers à rien. Non, mais c'est pas ça. C'est que là, on va suivre un personnage dont la puissance, au fur et à mesure, ne sera même pas quantifiable dans les rangs qu'ils ont établis. Et en fait, c'est de se dire. Moi, je suis au tome 12, jusqu'où ça va aller? Et même lui ne le sait pas, même le héros ne le sait pas. Et on se dit, mais là, ça va peut-être poser problème. Parce que forcément, il évolue en même temps que. Enfin, sa mentalité évolue en même temps que sa puissance. Et à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que le gars va pas se perdre et juste défoncer tout le monde parce qu'il en a le pouvoir? Et je lui souhaite pas. C'est pas la direction qu'il prend, mais moi je me suis posé la question. Parce que vient un moment où, en fait, quand tu réussis tout ce que t'entreprends, bah tu deviens un peu blasé, un peu comme Saitama. Pas dans le même sens, parce que là, les méchants, ils sont beaucoup plus. Voilà, ils sont beaucoup plus cheatés que dans One Punch Man. Et à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'il se confronte à quelqu'un qui va vraiment lui donner du fil à retordre pour se dire, bah en fait, j'ai encore des limites. Et heureusement, je me demande quand ça va finir.
Bah, si même toi tu n'as pas la réponse.
Non, je n'ai pas la réponse. Mais
Je pense que j'ai la réponse à la question que je vais vous poser en vous demandant est-ce que du coup vous allez continuer à regarder la série et pourquoi.
Ah, vas-y.
En tout cas, les deux épisodes que j'ai vus, ça m'a vraiment donné envie de savoir comment la suite de l'univers, la suite de l'histoire va se goupiller. Parce que on peut se dire, est-ce que ça va être hyper linéaire et qu'ils vont faire chaque donjon et qu'il n'y aura pas d'évolution? Mais ce que tu dis sur le personnage, en plus, me donne encore plus envie de savoir dans quelle direction va évoluer lui-même va évoluer. Parce que si sa mentalité devient de plus en plus ambiguë, moi, ça m'intéresse beaucoup.
Mmh. Et puis, on n'en a pas parlé, mais enfin, je ne sais pas si ça vous intéresse. Hein, peut-être que tout le monde s'en fout. Mais juste comment c'est arrivé? Parce que pourquoi il se retrouve avec ses capacités? Parce que ça, c'est pas juste balancé comme ça au hasard. Et le webtooner enfin le light noveler, le romancier, en fait, c'est à balancer le truc en se disant, bah je vais construire un univers uniquement autour de ça, et puis basta, à la fin il meurt ou il reste en vie. Moi, au point où j'en suis, on vient vraiment de rentrer dans le vif du sujet du pourquoi j'ai cette capacité-là. Est-ce que je suis joueur et c'est moi qui décide, ou est-ce qu'au contraire, je suis PNJ et il y a quelqu'un qui me manipule? Et en fait, je ne suis qu'un pion sur un échiquier. Et ça, on vient de rentrer dans cette phase-là, dans le webtoon. Et c'est hyper intéressant parce que ça relance plein de trucs. Et on se dit, bah, tout ce qu'on vient de lire là, est-ce que c'est vraiment ce qu'on croit?
Là, on rentre dans du Matrix, là. C'est
tout à fait. Non,
la réalité,
on n'est pas à ce niveau-là. Mais pour vous donner un aperçu, cette fameuse statue. On la revoit pas avant très tard, mais c'est un peu, c'est pas le boss final, mais presque. Donc, c'était pas juste un avant-goût, plus... cette statue reviendra. Ce sourire va encore vous hanter longtemps.
Non, mais en plus, il y a la notion de donjon, j'aime bien, j'aime bien ça, je suis fan de Zelda.
Il n'y a pas de dragon.
Ah, mais contrairement, on pense à Zelda, le côté à la fois, t'as la petite énigme,
ouais,
tu reposes sur aucune force, en plus, ah bah tiens, là il y a de la musique, enfin vraiment, ça c'est hyper malin.
Et pas de demoiselle en détresse.
Non.
C'est la demoiselle qui défonce Sungju, c'est pas la face.
Bah, il y a comme la soigne, enfin je sais pas comment on dit, la soigneuse ou je sais pas comment.
Non, vous pouvez la zapper.
Ok.
Non, mais pas parce qu'elle meurt.
Bon, épisode 5.
Non, du tout, pas parce qu'elle meurt. Et honnêtement, je vous le dis avec beaucoup d'honnêteté parce que je me rappelle pas du tout de comment elle finit. Je sais juste qu'à un moment donné, on la zappe au profit d'une belle petite blonde que vous avez vue dans l'épisode 1 et qui est vachement plus intéressante. Voilà. Ah. Donc, ne vous intéressez pas à la rousse.
Parce que
c'est non pas qu'on aime pas les gens fragiles, mais un petit peu quand même.
Bah là, on veut voir du sang, on veut voir.
C'est voilà, ça, bah vous comptez pas sur elle.
Les gens fragiles, là, ils ont pas leur place dans cette série.
Non, puis on va avoir l'arrivée du Deutéragoniste. Alors je dis Deutéragoniste, mais c'est entre deux gros guillemets parce qu'on le voit pas autant que Sungju, mais c'est un peu, ça va être un peu le meilleur pote, un peu comique, l'élément un peu comique de l'histoire, parce qu'il va vous en falloir de l'humour pour supporter tout le reste.
Quand même. Oui, c'est ce que je me demandais aussi, justement. Est-ce qu'il y a un peu d'humour?
Oui, il y a des scènes très drôles, des scènes même très slice of life, que Sungju, vous avez vu son évolution physique, forcément, si les nanas s'intéressent pas à lui dans les deux premiers épisodes, ça viendra, et lui, il s'en fout un peu, donc ça donne lieu à des situations un petit peu comiques, mais non, c'est assez drôle. Puis même des personnages type très Bakugo dans My Hero Academia qui veulent juste défoncer du monde, et si jamais tu leur dis non, je ne veux pas me battre avec toi, qui pètent un câble. voilà. Vous aurez des moments de répit, mais savourez-les, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup.
Moi, je crois que là, tu pourrais pas mieux vendre la série.
Bah, avec plaisir.
J'ai pas fait de quiz, j'ai quand même une question. Ouais. Où est-ce qu'on peut voir la série?
Ah bah ça, de toute façon, Crunchyroll s'est bien chargé de l'annoncer bien en avance, puisque je crois que c'est en 2020. En 2021.
Ouais, je pense que c'est 2 ans avant.
Ils ont annoncé la série en 2021.
Ah oui,
c'est nous qui. Parce qu'il y avait tellement de rumeurs.
Ils ont annoncé la diffusion la veille, non? C'est pas ça?
Non, c'était bien avant.
C'était bien avant.
Oui, c'était bien avant. C'était pendant un. Alors, c'était pas le Comic-Con, je sais plus comment c'était. C'était une convention à Los Angeles.
Ah oui.
Ils l'ont annoncé en juillet 2021, je crois.
D'accord.
Et déjà, il y avait des rumeurs de leak parce que vraiment, je crois que le webtoon commençait tout juste sa publication en France et que ça commençait vraiment, vraiment à prendre de l'ampleur. Et tout le monde attendait que ça. On se disait, mais c'est pas possible, il va falloir qu'il y ait une adaptation parce que ce truc a du potentiel. Et il y avait des rumeurs d'adaptation, mais rien d'officiel. Et là, bim, CP de Crunchyroll, c'est nous qui les avons. Et là, on s'est dit,
c'est fait.
Voilà, c'est fait. En plus, adapté. Je suis désolée, j'ai complètement zappé le nom du studio, mais qui a fait ses preuves, donc il n'y avait pas de soucis là-dessus.
C'est pas MAPPA.
Non, c'est pas MAPPA.
on le dit quand même.
Voilà, c'est dire que quand c'est pas MAPPA, on ne sait pas qui c'est. Tellement ils sont partout. Mais il y avait tous les éléments réunis pour que ça fasse un beau projet. Donc les 2 ans ont été longs. Et surtout qu'à la base, ça ne devait pas sortir en 2023, ça devait sortir en 2022. Mais il y a eu du retard je ne sais quelle raison.
Ce qui avait inquiété, je crois, à l'époque, sur la qualité de la série.
Sur la qualité de la série et puis sur l'avenir de la série. Parce qu'on en a vu des projets être annoncés. Voilà, je balance ça comme ça. Mais si vous êtes fan de Yuri on Ice, ça fait 7 ans et demi qu'on attend le film.
De quoi ?
7 ans et demi, Yuri on Ice.
Ah, ok.
Moi, les projets en stand-by.
Vous vous souvenez de One Punch Man saison 3 dont on avait l'affiche ?
C'est pas faux.
Voilà.
Je sais pas si elle arrivera celle-là, mais est-ce qu'on peut espérer une VF pour Solo Leveling ?
Elle est déjà en cours. Elle est déjà disponible et c'est un casting belge, donc je suis hyper content pour eux parce que c'est vrai qu'on les relègue souvent aux séries moins impactantes. Et là, ils ont eu Solo Leveling et c'est trop cool parce que ça leur donne l'opportunité de montrer ce qu'ils savent faire et ils sont forts, nos comédiens belges.
On espère que nos amis belges nous écoutent.
Bah, j'espère aussi.
J'ai toujours rêvé de dire ça.
T'as pas dit une fois après, donc. Ça va, tu les respectes.
Ouais, je les respecte.
Bientôt, je parlerai des versions québécoises et on dira, j'espère que nos amis québécois nous
du Québec. Donc tous les samedis matin, je crois.
Soir, 18h30.
Bon bah voilà.
12 épisodes, c'est ça.
Je suis au taquet.
12 épisodes en tout.
12 épisodes en tout.
Alors je pense qu'on peut dire officiellement, enfin pas officiellement, parce qu'on est personne, mais on ne doute pas sur le renouvellement de la saison si ça reste dans la hype dans laquelle c'est actuellement.
Moi je pense que le renouvellement n'est pas la question, c'est plus est-ce qu'il y aura la case cinéma.
Ah, il y a du potentiel cinéma de folie.
Là,
oui,
voir autant de violence sur un grand écran au Grand Rex.
Bah, surtout, ouais, peu... je pense surtout. Ouais, bon, je vais pas en parler, mais il y a un certain art qui serait incroyable au cinéma. Voilà, je pose ça là. Les Japonais, on si vous nous écoutez,
voilà, écoutez. Peut-être qu'on est écouté au Japon.
On est écouté au Japon.
Nos amis japonais,
voilà. Faites un film sur l'arc sur l'île.
Bon,
voilà.
En tout cas, Solo Leveling, je pense que c'était à la fois une grosse attente, peut-être moins du côté de Vincent, mais en tout cas.
Non, mais je suis content d'avoir dépassé mes préjugés, ouais. Parce que maintenant je suis hypé, je vais continuer.
Ok, bon, bah, c'est validé. Peut-être qu'on reparlera de la série à l'occasion des Anime Amea Awards 2024. Merci à Manon, merci à Vincent, merci à Kéliane au micro. Et puis on vous dit à très vite sur la chaîne Allociné pour d'autres émissions d'Anime Amea. Salut à tous.
Salut.
Salut.
Allociné.